La Box à gourmandise, c'est votre émission culinaire tous les vendredis sur Toravox Radio.
Je bafouille.
La Box à gourmandise, votre émission culinaire tous les vendredis sur Toravox Radio depuis Jérusalem. On est quelques heures avant l'entrée de cette fête si spéciale, le jour du jugement Rosh Hashanah.
Oui.
On espère que vous avez déjà préparé ou bien que vous êtes en plein dans votre cuisine et dans vos fourneaux. En tout cas, nous, on ne va pas parler... Muriel,
oui, bonjour Elicia.
Bah oui, d'abord bonjour. On ne va pas parler de Rosh Hashanah cette fois-ci, Muriel, puisqu'on en a déjà parlé.
On a donné nos recettes la semaine dernière, et c'est vrai.
Si vous avez raté l'émission, je vous rappelle que vous pouvez la retrouver sur la page de la radio du site Torahbox. Sur le côté, vous avez donc rediffusion des émissions. Vous cliquez sur la box à gourmandise et là,
il y a des podcasts maintenant.
14, tout à fait.
Ah, c'est super.
Oui, on n'arrête pas le progrès.
Ah oui.
Voilà, donc vous pourrez cliquer sur l'émission numéro 14 et retrouver notre émission spéciale Rosh Hashanah. Voilà, on a voulu s'y prendre à l'avance. On s'est dit que c'était pas très cool de vous présenter des recettes alléchantes et de vous laisser que quelques heures pour les préparer. Oui. Donc voilà, on a parlé de tout ça la semaine dernière. Et cette semaine, alors Muriel, on va parler de
Yom Kippour. Hein, c'est la fête, la prochaine
rien,
fête qui vient.
On mange rien, Yom Kippour, tu nous embrouilles. Qu'est-ce
on
que tu vas
avant,
nous proposer?
On mange après, Alicia.
C'est vrai, c'est vrai.
Ne t'inquiète pas, il y a plein de choses à faire.
Voilà, pas tout le monde le sait, mais il y a une aussi grande mitzvah de manger la veille de Yom Kippour que de jeûner à Yom Kippour.
Ouais, alors justement, nous, on va donner des recettes pour l'après Yom Kippour. Ça veut dire pour casser le jeûne. On va parler de la mouna.
L'after Yom Kippour.
L'after Yom Kippour. On va parler de la mouna ou la mona. Ou
la mouna. Allons-y.
Nous, on dit mona. Hein.
Ah, d'accord.
Ok, la mouna, c'est des petites brioches, d'accord, qui vont être très fameuse, appréciées après le jeûne.
Fameuses, aérées, sucrées.
Voilà, et on va parler aussi de l'accompagnement, la confiture de figues, la confiture de coing, la confiture de raisin. On va essayer de donner toutes les recettes.
Plein de bonnes choses pour accompagner cette mouna, pour éviter de s'étouffer avec, parce que c'est un petit peu...
Non, c'est pas du tout étouffant, une mouna. Non, c'est pas vrai.
D'ailleurs, j'en profite pour passer le bonjour à Mamie Odette, qui nous préparait la mouna à chaque sortie de Kippour, et on s'en régalait. Ok, c'est super. Alors, voilà, restez avec nous. On retrouvera tout ça après la pub. On aura aussi en ligne le Rav Dayan, qui nous apportera ses précisions à la RIC. On en aura bien besoin. Et on retrouvera également le Rav Usan, qui va nous éclairer de ses lumières comme chaque semaine. Mm-hmm. Ne bougez pas, on se retrouve. À tout de suite. À tout de suite pour la Box à gourmandise.
Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des Prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors, travailler le gan, c'est la sotte de la Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le gan? C'est l'ichement, mitzvotah, de garder une mitzvot.
Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous. Question de Halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous.
La Box à gourmandise, c'est votre émission culinaire tous les vendredis sur Toravox Radio. Rebonjour à toutes, rebonjour à tous. La Boxe à Gourmandise, votre émission culinaire sur Torah Box Radio depuis Jérusalem. Alors, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, on rappelle qu'on est dans une émission spéciale, non pas Rosh Hashanah, mais spéciale Kippour.
Yom Kippour.
Alors, rassurez-vous, on ne va pas vous présenter de l'air, hein, puisqu'on jeûne à Yom Kippour. On va parler des recettes post-Yom Kippour.
Voilà, on va parler de la Mouna ou Mona, ça dépend des, okay. des prononciations hein, des, de l'origine.
Divine, divine brioche. Avec voilà. plein de choses dedans.
Est-ce que j'ai parlé des initiales?
Oui, tu
oui, j'ai parlé des initiales. Ok, alors les brioches de Yom Kippour, donc les mouna, elles ne sont pas vides. Ça veut dire qu'on peut les fourrer. Nous, notre coutume, mes parents sont d'Oran, c'était de mettre des raisins secs et des amandes dedans.
Vous
ne
pouviez pas vous en empêcher hein, de fourrer
on pouvait pas.
Des raisins secs.
J'adore les raisins secs. Bon. Il y en a dans le boulot aussi, des raisins secs.
Pas toujours.
Toi, tu n'en mets pas.
Non, moi, je
d'accord.
ne suis pas de cette école.
Alors, chez les enfants, tout le monde n'aime pas les raisins secs comme toi. Hein. Donc, alors, on peut mettre aussi une barre de chocolat. On peut mettre ce qu'on veut dedans, d'accord?
Ah, voilà, c'est une suivant. Barre de chocolat, tu vois, ça a tout de suite plus d'écho.
Ça a plus d'écho, effectivement. Alors, je vais commencer par les ingrédients de la brioche. Mm-hmm. On a besoin d'un kilo de farine tamisée. D'accord. On va réussir à peu près à former une vingtaine de brioches individuelles.
Avec cette recette, d'accord.
Voilà. On a besoin de 200 ml d'huile, ça équivaut à peu près à un verre rat PMI. Mm-hmm. On a besoin de 2 cuillères à soupe de levure sèche,
d'accord.
ou alors le cube, hein, pour celles qui utilisent le cube.
D'accord.
On va aussi avoir besoin de 200 g de sucre.
D'accord. Donc c'est bien, bien sucré quand même. Hein?
Oui, c'est une brioche sucrée, où il n'y a d'accord. pas à dire, on peut un peu retirer de sucre. Enfin, celui qui veut en mettre moins, il peut aussi. Moi, j'aime d'accord. quand c'est sucré, la brioche.
Okay.
4 œufs. Deux sachets de sucre vanillé. Alors, le parfum, c'est un peu au goût. Ça veut dire qu'on peut mettre de la fleur d'oranger pour celles qui aiment.
Mmh.
On peut mettre du rhum à la place ou alors tout d'accord. simplement de la vanille. C'est okay. très sympa de rajouter aussi un zeste d'orange, de citron. Ça fait tout de suite...
Ça fait tout de suite
une brioche parfumée. Ça parfume très bien, d'accord,
d'accord.
Et on va avoir besoin aussi d'eau tiède ou alors du lait. D'accord. Alors, l'eau tiède... et bien sûr, notre pincée de sel hein, habituelle pour nos réactions chimiques dans la pâte.
Oh, bah, je pense que nos auditrices
oui, je pense qu'elles savent que je mets du sel à toutes les sauces.
Il faut toujours une petite pincée de sel, hein, forcément.
Exactement.
Voilà.
Alors, le total du liquide dont on a besoin pour ce kilo de farine, mm-hmm. on a besoin de 600 ml à peu près.
D'accord.
Donc, ça va se séparer entre l'eau et les 4 œufs. D'accord. Les 4 œufs, on va les mesurer.
En fait, on peut peser, oui. On n'a qu'à peser les 4 œufs.
Oui.
Et puis ensuite, on pèse l'huile.
Et l'eau.
Et l'eau.
Et il faut qu'on arrive à un total de 600 ml.
D'accord.
D'accord. Okay. J'avais oublié l'huile, tu fais bien de la rappeler.
Oui.
Donc, mais cette eau, on ne va pas la mélanger puisqu'on va avoir besoin d'eau tiède pour diluer la levure. La
d'accord.
levure, pardon. Ok. On va donc mettre de la levure mm-hmm. avec du sucre et l'eau tiède, d'accord, qu'on va bien mélanger pour que la levure se dissolve.
Oui.
Et qu'elle mousse un petit peu, voilà, quand on aura des mousses de la mousse dessus, alors ce sera parfait, d'accord. Une fois qu'on a obtenu cette mousse, on va rajouter tous les ingrédients, d'abord liquide, donc les œufs, l'huile, d'accord, et le reste.
Donc la levure, excuse-moi de te couper,
oui.
Donc tu as dit qu'on peut utiliser un cube.
Oui.
D'accord, ok. Je crois que ce cube, il doit faire à peu près 40 grammes. Sinon, on peut utiliser... Mais bon, on n'est pas trop fan de cubes, nous. On utilise
un peu gluant, comme ça, oui. Voilà. C'est quelque chose qu'on dilue, comme ça, dans l'eau tiède. Oui, je sais pas. Moi, j'utilise... C'est tellement plus facile. C'est de la levure qu'on garde au congélateur ou au frigidaire. Hein.
Ah, c'est pas au frigo. Oui, au frigo, plutôt.
Au frigo. Moi, je la garde au congélateur, je sais pas.
Ah, d'accord.
Voilà. Enfin, l'essentiel, c'est qu'elle soit au froid, parce que comme ça, quelque chose qui vit la levure, alors...
Faudrait pas que ce soit trop vivant au bout d'un moment. Si vous voyez ce que je veux dire.
On ne la retrouve pas se promener dans le frigidaire quand même. Hein?
C'est ça.
Ok.
Chérie, où est la levure? Rattrape-la.
Ok. Alors, on a rajouté tous nos liquides, donc on les bat, d'accord. Ça peut se faire à fouet à la main. Hein? C'est pas la peine de mettre ça dans le batteur.
D'accord.
Et on va rajouter notre farine avec notre sel et on va pétrir. Alors,
rassure-moi, c'est une pâte qui peut se pétrir à la main. On ne va pas
oui,
se retrouver
oui.
avec les mains engluées dans un espèce
non.
de sable.
Non. Alors, on rajoute un peu de farine si c'est trop mou. Elle n'est pas collante, la pâte. Justement, elle est très bien si on ne dépasse pas ces 600 ml.
Mm-hmm.
Si on a les mains un peu collantes, alors on peut rajouter un peu de farine. On farine bien mm-hmm. sûr notre plan de travail, mais ce n'est pas une pâte qui est collante. Ce n'est pas
d'accord.
une pâte à baigner, d'accord. C'est vraiment une pâte, comme une pâte à chalotte, mais sucrée,
d'accord.
une pâte à pain. Alors, elle est quand même légère, cette pâte. Elle est quand même molle. Plus mm-hmm. elle est molle, plus la brioche sera après cuisson. Elle sera aérienne, elle sera aérée plutôt. Oui. Elle sera légère, elle sera... Mmh. D'accord, une pâte qui est un peu dure, ça ne donne pas de très bons résultats. D'accord. En pâtisserie, en tous les cas. D'accord. Et puis, on va bien pétrir, d'accord, comme des chalotes, d'accord, ou à la main, ou au batteur, au, mmh. pardon, au fouet, au pétrin
au,
plutôt.
Au robot.
Voilà, au robot. D'accord. Mmh. D'accord. Quand on a terminé de pétrir, alors on va séparer cette pâte mmh. en une vingtaine de petits morceaux, puisqu'on va avoir à peu près 20 brioches individuelles, d'accord,
d'accord.
Et avant de passer à la suite de l'explication, mmh. je pense que ce serait bien d'écouter une petite page musicale.
Tout à fait. Mmh. Eh bien, tu as bien fait de me le rappeler parce que ça m'avait échappé.
Voilà.
Alors, on va, on fait une petite pause et puis on se retrouve tout de suite.
Que
Et nous, on revoilà après cette petite pause musicale. Donc, si vous êtes avec nous depuis le début, vous savez qu'on est en plein dans le pétrin avec notre plan de travail fariné. Il y en
c'est
a deux partout et ça va être absolument délicieux. On est en train de préparer une mouna algérienne.
Voilà.
Alors, donc, on a dit qu'on a divisé notre pâte en 20 morceaux, Muriel, hein, c'est ça?
Voilà, c'est ce qu'on va obtenir, à peu près une vingtaine de petites brioches.
D'accord, mais on peut en faire une grande.
On peut en faire une grande, justement. Je ne sais pas si on en a parlé.
Non.
Non. Alors, on a parlé des initiales, d'accord, qu'on mettait pour les petits,
ouais.
pour les enfants. Alors,
mignon,
nous,
ouais.
on fait pour le couple, donc le chef de famille et son épouse,
d'accord.
une grande mouna, et okay. avec l'initiale de
d'accord.
du nom de la famille, quoi, de nom de famille, et mm-hmm. Voilà, et avec les petits enfants autour, comme ça, les petites mounas avec leurs petites initiales.
Et ils se fâchent pas après au niveau des parts.
Non, on coupe ça comme une tarte. Alors, nous, on a l'habitude de poser la mouna. On finit la Seouda Mafseket, donc, et on pose la table pour le lendemain soir avec la mouna au milieu de la table, celle qui va nous rassasier après
quelle
le jeûne.
Cruauté.
Et c'est une cruauté, c'est une vraie cruauté. Parce
vous regardez ça tout le jeûne comme ça.
Avec les confitures à côté. Oui, c'est assez difficile. Mon mari m'en parle tous les ans.
Confitures, vous
et, et je lui dis non, on continue la coutume.
Oh, franchement, c'est vache. Bon.
Voilà.
Ok, alors continuons. On a nos 20 morceaux ou notre grosse mouna, si vous
voilà.
êtes un couple.
Alors, on peut se servir d'un. Il faut aplatir en fait ces petits bouts, ces 20 morceaux. On peut se servir d'un. D'un rouleau à pâtisserie, d'accord ? Ou alors avec la paume de la main, pourquoi ? Parce qu'on va devoir mettre notre remplissage, ça veut dire le fourrage, quoi. Donc de raisin sec, amandes, chocolat, ce qu'on a trouvé, d'accord ? Et on va refermer donc ces petites monas, d'accord ? On va former donc des boules qu'on va poser sur la plaque de cuisson. Alors, on peut aussi se servir de moules à brioche, d'accord ? Pour faire des moules à brioche...
Pour faire
comme chez le pâtissier, quoi, c'est aussi joli.
Mais rassure-moi, on peut poser ça sur une plaque, ça
ne
va pas
tout à fait.
Partir dans tous les sens.
Non, pas du tout. C'est une pâte qui est quand même dure
et
qui tient la route complètement.
D'accord.
Et alors, on va passer un jaune d'œuf, d'accord, pour dorer ces brioches.
D'accord.
Ce qui est sympa, c'est de mettre du sucre concassé, là, les petites perles de sucre.
Oh oui, hein, du
sucre pour faire
perlé,
comme à la pâtisserie, du sucre perlé, tout à fait. Ouais. Et on va laisser lever pendant une heure. D'accord.
Ok.
Recouvert d'un linge, pas recouvert d'un linge, comme on veut, c'est plus hygiénique de recouvrir. En ce moment,
surtout par les temps qui courent.
Par les temps qui courent, exactement. Voilà. Ok. Et une fois que ça a bien levé, alors on va l'enfourner dans un four bien chaud, qu'on va faire chauffer à 180 degrés. Quand il sera arrivé à 180 degrés, on va enfourner nos mounas.
D'accord.
Et on va les laisser cuire entre 10 minutes à 15 minutes, pas plus de 15 minutes parce qu'après on a une brioche qui
s'est...
Ça donne une très bonne odeur, effectivement.
Dans la maison.
Voilà. Exactement.
D'accord. Elles doivent être bien dorées, hein, de mon souvenir. De ce que je me rappelle de la mouna,
oui,
c'est bien doré.
C'est bien doré. En dessous aussi, hein, c'est un peu marron. C'est
le...
Mais quand même pas plus de 15 minutes parce qu'après, elles sont sèches.
D'accord.
Et c'est quand même meilleur. D'accord.
Ça
se congèle très bien.
Ah, ça se congèle.
Ça se congèle très bien. On peut les préparer à l'avance.
Ok.
D'accord. On les sort un peu avant de les manger. On peut les repasser au four. Elles seront encore meilleures. Voilà, on peut les tartiner, on peut faire ce qu'on veut, c'est très bon. C'est une mona, c'est très bon.
Ouais, vraiment.
D'accord.
Délicieux, bah super, ok. Je vous propose que, avant de passer à la suite, on fasse une petite pause de pub. Voilà, et puis surtout, restez avec nous parce qu'on va vous proposer plein de choses délicieuses qui viendront accompagner cette mona aérée.
Voilà.
Et absolument fameuse. Ne bougez pas, on se retrouve.
A tout de suite pour la box à gourmandise.
DoraBox, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des Prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors, travailler le Gan, c'est la sauce des vraies Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan? C'est l'ichement, mizvota, de garder les mitzvot.
Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbanim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, emouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent l'halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands. Sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est deux nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.
La Box à gourmandise, c'est votre émission culinaire tous les vendredis sur Torah Box Radio.
Et nous revoilà pour la Box à gourmandise, émission spéciale post-Yom Kippour. On est avec Muriel, notre chef attitré, qui nous prépare toutes sortes de recettes délicieuses et... Que vous ne voudrez pas rater pour cette année, pour ce Yom Kippour. Alors, si vous étiez avec nous, on a parlé de la mouna, hein, cette fameuse brioche.
Voilà, et puis maintenant, on va parler des accompagnements. Alors, on va donner des recettes, enfin, je vais donner des recettes de confiture.
Oh, de la confiture.
D'accord. Alors, en Israël, je pense qu'en France aussi, c'est la période des figues. D'accord. La confiture de figue est très appréciée, c'est quelque chose qui est très sucré.
Ah, c'est délicieux.
Ce qui est intéressant aussi avec la confiture de figue, c'est qu'on peut l'utiliser pour nos entrées. Hein. Quand on va servir notre pâté de foie, par exemple, à Rosh Hashanah, ça se marie très bien avec le foie.
Ah, ok.
D'accord, mais enfin là, on va la garder pour...
Pour la mouna.
Pour la mouna,
d'accord. Sinon, vous en faites double quantité. Mais alors, attends, tu me parles de figue, de figue. Puis tu dis ça comme si de rien n'était, mais il y a quand même des problèmes de cache-route avec la figue. C'est pas
alors,
si simple que ça.
Alors, je vais utiliser des figues fraîches, d'accord. Pas d'accord. De figues sèches. Il y a quand même des moyens de la vérifier, cette figue. Je pense que...
D'accord.
On a besoin d'éclaircissement.
Ok, alors ne bouge pas. On va interroger tout de suite le Rav Dayan qu'on va avoir en ligne. Rav Dayan, vous nous entendez? Shalom Uvracha. Figues sèches, bon, alors on a bien compris, hein, on ne va pas en utiliser. Mais par contre, les figues fraîches, si vous pouvez nous éclairer comment on les vérifie?
Bonjour à toutes et à tous. Alors, comment vérifie-t-on des figues fraîches? Alors, puisqu'on est à l'approche de Rosh Hashanah, il faut savoir que certains, pas tout le monde, en général c'est les Tunisiens, qui ont l'habitude de manger des figues fraîches ou des figues sèches le soir de Rosh Hashanah. Ça fait partie de leur seder. Dans les autres communautés, que ce soit Hasidim, Ashkenaz ou Sepharad, dans le seder de Rosh Hashanah, il n'y a pas la figue qui est mentionnée dans les marzorim. Donc, alors, est-ce qu'on, pour ceux qui mangent des figues fraîches à Rosh Hashanah ou à un autre moment, comment fait-on pour vérifier les figues fraîches? Alors, il faut savoir que les figues fraîches sont très, 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 très infestés. D'ailleurs, certains poskim disent que la meilleure des choses à faire, c'est de ne pas en consommer. Pourquoi? Parce que la vérification est très difficile du fait que les vers qui s'y trouvent s'apparentent ressemblent énormément aux filaments de la figue et aux grains de la figue. Parfois, les vers sont blancs, parfois ils sont noirs. Et c'est très, très, très difficile de vraiment bien discerner les insectes, les vers du corps du fruit lui-même. Donc certains parce qu'ils me disent qu'il vaut mieux éviter de consommer. Celui qui veut en consommer, ça me fait rappeler donc l'histoire du Ben Ishraï qui, la veille de Pessah, voyait une femme en train de vérifier le maror et il voyait qu'elle ne vérifiait pas très, très, très bien le maror. Alors il dit, tu sais, si tu ne vérifies pas bien le maror, eh bien, le nombre de avérotes que tu auras sur les épaules à supporter, il sera aussi nombreux que les cheveux de ta tête. Et donc, il vaut mieux ne pas manger du maror. Bien entendu, s'il n'est pas bien vérifié. Alors, je pense qu'on peut dire la même chose pour les figues. Si on ne fait pas très très attention, ou bien si on ne sait pas bien 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 vérifier les figues, il vaut mieux éviter de les consommer. Alors, le moyen le plus classique qui est mentionné dans les livres qui parlent de la bdika des tolaïm dans les figues, et le suivant. Alors, d'abord, on lave très 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 bien avec de l'eau et un peu de savon la figue de son côté extérieur. Ensuite, on coupe les extrémités, la partie qui est collée à la branche et le trou inférieur, parce qu'en général, c'est par ces endroits-là que les vers pénètrent. On coupe ces deux endroits. Ensuite, on coupe la figue en deux et on la retourne en appuyant sur le côté extérieur et afin de faire sortir le côté intérieur et qu'on pourra bien 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 vérifier tout l'intérieur de la figue. Ensuite, on s'approche d'une source de lumière très 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 claire et on observe très attentivement pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui bouge. S'il y a quelque chose qui bouge, on jette la figue. S'il n'y a rien qui bouge, on regarde attentivement s'il n'y a pas quelque chose qui est vraiment différent de l'entourage. S'il n'y a rien qui bouge et rien n'est différent de l'entourage, alors on peut se permettre de manger la figue. Voilà, bon appétit à tout le monde et Shana Tova.
Toda Rabba, merci beaucoup Rav Dayan et Shana Tova surtout. Ok, donc figue à prendre avec des pincettes et à bien vérifier. Voilà. Hein. Mm-hmm. D'accord, ok. Sortez votre loupe. D'accord.
Ok, donc alors on va avoir besoin d'un kilo de figues mûres, d'accord. On va les découper en quartiers, justement, ça va nous aider à les vérifier, on va bien les vérifier. 500 grammes de sucre en poudre.
D'accord.
Alors, en général, une confiture se fait 1 kilo de fruits, un temps pour temps. Ça veut dire 1 kilo de fruits pour 1 kilo de sucre.
Une mesure de fruits pour une mesure de sucre.
Un temps pour temps, voilà. Comme on dit. OK, mais les figues sont tellement sucrées qu'on peut, on peut mettre
peu
500 grammes. Okay. J'en ai déjà fait aussi avec 250 grammes de sucre et c'est aussi très bon.
D'accord.
D'accord. Donc, je vous donne la recette la plus courante. Alors, 500 grammes de sucre, 1 kilo de figues mûres, de la vanille.
De l'extrait vanillé. D'accord.
De l'extrait ou alors du sucre vanillé.
D'accord.
Ou encore mieux, des gousses de vanille. Hein, pour celles qui en ont, c'est le mieux de laisser infuser. Et un citron. Le jus d'un citron, pardon.
D'accord.
D'accord. Alors, donc on va bien laver ces figues. On va les découper en quatre. On va ôter la queue des figues, d'accord. On l'enlève. D'accord. C'est pas la peine de l'avoir dans la confiture. Alors, les figues que je trouve en Israël, elles ont une peau qui n'est pas trop épaisse, donc je les mets comme ça. Maintenant, quand on a affaire à une figue qui est bien épaisse, on peut enlever la peau quand même. Hein. C'est aussi faisable, d'accord. C'est un peu plus de travail, mais ça n'en sera que meilleur. Donc, on va mettre dans une casserole donc ces figues, ce kilo de figues, notre sucre, le jus de citron. Okay. Et les gousses de vanille, ou alors le sucre vanillé.
L'essence de vanille.
Voilà. L'essence de vanille, je ne sais pas, pour la confiture. J'aurais mis plus un sucre...
Un sucre vanillé.
Un sucre vanillé, voilà.
D'accord.
OK, alors, on va les mettre dans une casserole. Le mieux, c'est d'avoir ces casseroles à fond épais, tu sais, pour la confiture, mais pas tout le monde les a. Casserole en cuivre, comme ça.
Casserole un peu en pierre, si
c'est
pierre.
C'est plus du cuivre pour les confitures.
Ah, du cuivre.
D'accord.
Okay. Bon.
On va prendre une marmite normale, d'accord.
Okay.
Et puis, on va mettre ça... On va porter ça à ébullition, on va laisser bouillir pendant à peu près 10 minutes et on va baisser le feu et laisser mijoter pendant une bonne heure.
Alors,
à feu doux.
Muriel, excuse-moi, je te coupe. J'ai déjà fait peut-être 3 tentatives de confiture qui ont très très mal terminé.
Explique-moi tout.
Alors, c'est devenu un caramel. D'abord qui était tout collé, qui a durci, et en plus qui s'est collé à ma casserole au point que j'ai presque jeté ma casserole. Bon, je l'ai laissé tremper plusieurs jours, hein, figure-toi, pour désintégrer le caramel. Et voilà. Et donc, bon, j'ai fait ça une fois, j'ai dit bon, j'ai dû rater quelque chose, donc j'ai recommencé une deuxième fois, ça m'a fait la même chose.
Si tu refais la même chose à chaque fois, ça va avoir le même résultat, Alicia.
Bah oui, mais je suis la recette, alors j'en sais rien, moi. Je comprends pas.
Alors, en fait. Il faut surveiller tout le temps. La confiture, on est à côté et on remue avec sa cuillère en bois. D'accord.
D'accord. Donc, si vous êtes, si vous espériez laisser votre casserole tranquille et puis vaquer à vos occupations,
pas
du
tout. Justement, le sucre,
utopie.
Il peut cuire encore plus et former ce caramel que tu dis accroché à la casserole. Agave, quand tu as du caramel qui est dans une casserole, tu prends pas chaud de l'eau du koumkoum brûlante, tu la verses dessus, ça dissout le caramel. Hein.
Ah, mais
c'est pas la peine d'attendre 3
non,
jours.
Non, mais tu n'as pas compris de quel caramel il s'agissait.
D'accord, coloré.
C'était... Ah oui, tu aurais pu construire un avion avec, tellement il était dur.
D'accord. Alors, on va remuer. Quand est-ce qu'on sait que c'est prêt?
Donc, tu dis, en fait, le secret, c'est de remuer, de rester à côté.
Rester à côté, mais si tu... Tu connais la consistance de la confiture. Il y a aussi il faut qu'il y ait une espèce de gelée qui se forme à cause de la pectine du fruit. Du coup, comment est-ce que tu fais? Tu peux prendre un peu de sirop entre les doigts, bon, faire attention parce que c'est quand même assez chaud, et tu écartes doucement l'index et le pouce, d'accord. Et ça doit former un filet comme ça, d'accord. Quelque chose de fin, comme un filet de gelée, voilà.
D'accord.
Ok. Là, ta confiture, elle est prête. Tu peux aussi prendre un petit peu de casserole et la poser dans une assiette froide ou sur ton plan de travail qui est bien froid. Et ça va faire comme une petite boule de gelée aussi, d'accord ?
D'accord.
Il faut, en fait, bon, tu la prends avec le temps, mais tu vois la consistance de la confiture que tu as l'habitude de manger, celle
d'accord.
que tu achètes au super, quoi. Et c'est la même chose, d'accord ? Alors, quand la confiture est prête, soit tu aimes la manger en sentant les morceaux de fruits.
D'accord.
D'accord, donc tu vas la mettre dans ton pot. Je t'explique ensuite ce qu'on fait avec les pots. Soit tu peux la mixer aussi. D'accord.
Okay.
Donc la confiture de figue, c'est ou mixée ou en morceaux. On va prendre des pots, d'accord, des pots en verre qu'on va d'abord ébouillanter.
Un bocal comme ça.
Oui, un bocal. Un bocal en verre, exactement. Okay. Qu'on va ébouillanter d'abord. C'est une manière de...
Ah ouais.
Ça va le stériliser, en fait. Ça va permettre de ne pas trouver de la moisissure ensuite sur la confiture. Okay. On ferme. on remplit presque à ras.
Tu les bouillantes et tu vides ton eau. Sûr. Donc après, tu as ton bocal qui est chaud et tu mets dedans ta confiture.
Voilà, il est sec aussi. Hein, il est sec, d'accord, d'accord. Donc c'est une espèce de stérilisation, c'est pour le nettoyer, d'accord.
Oui, parce que le miel est aussi infirmière.
Tu mets donc ta confiture dedans en laissant un petit peu d'espace entre le couvercle et le et la confiture, d'accord. Tu fermes et tu retournes ton pot. D'accord.
Ah ouais.
On les pose à l'envers jusqu'à ce que la confiture se refroidisse complètement.
Et pourquoi donc ?
Et pourquoi donc ? Eh bien, je ne sais pas. Voilà. J'ai toujours retourné mes pots de confiture.
À couper au montage. Hein. Ok, je plaisante. Donc, tu ne sais pas. D'accord, bon, mais enfin, c'est... D'accord. Bon, non, c'est pas grave, on fait ce que tu dis. Hein.
Okay.
On ne va pas chercher. Et c'est... c'est comme pour la Torah, Naaseh v'Nishma.
Alors là, tu m'as scotché.
Nous ferons et nous comprendrons.
Mais pourquoi on retourne ? Je les ai toujours retournés, je ne sais pas pourquoi.
D'accord, donc en fait, dans ta cuisine, on a plein de choses à l'envers et puis personne ne sait pourquoi.
Et non.
Et personne ne pose de questions. Bon, bah, tout va bien. D'accord.
Ah là là. Alors, le fait d'ébouillanter avant, ça veut dire de stériliser
notre bocal,
on a dit que ça allait permettre...
Excuse-moi, je dis un bocal parce que je ne sais pas si on dit au pluriel des bocaux ou des bocals. Donc, c'est pour ça que
non,
je dis...
Non, des bocaux, je pense.
On dit des bocaux.
Oui,
bocaux. Voilà, j'avoue que je ne sais pas. Bah, tu vois, moi aussi, il y a des
choses que je ne sais pas non plus.
Donc, c'est pour ça que je reviens toujours sur le bocal. S'il y a des auditeurs et des auditrices qui savent comment on dit, vous êtes invités à nous envoyer un
bocaux,
mail.
J'en suis sûre. Oui, alors, le fait d'avoir ébouillanté les bocaux, donc, et d'avoir créé un environnement stérile pour notre confiture, ça va nous permettre de pouvoir les conserver à l'extérieur du frigidaire, d'accord ?
Ah ouais.
Et ça ne pourrira pas, donc.
Incroyable, des confitures, ça se conserve en dehors du frigidaire.
Tout ce qui est très sucré, le sucre, comme stérile, c'est quelque chose qui est stérile, d'accord ? Ça ne pourrit pas, le sucre.
Ah bah oui.
Oui.
Et oui, comment avant ils préparaient des confitures alors qu'ils n'avaient pas de réfrigérateur. Bah oui, parce que le sucre, évidemment, ça conserve, tout comme le sel d'ailleurs.
Ouais.
D'accord.
D'accord. Mmh. Voilà, là on a notre confiture de figue. Donc encore une fois, on peut la mixer, on peut la laisser en morceaux. Et moi, j'aime surtout la confiture de figue avec du foie. Du pâté de foie.
Du pâté de foie.
Avec un toast bien craquant, c'est quelque chose.
D'accord.
Je l'avoue. D'accord.
Ok, magnifique.
Voilà, alors le petit plus... Mmh. Pour celles qui ont le cookéo.
Et oui, parce qu'on en parle de ça.
On cookéo. En parle du cookéo, hein. Et non. On peut faire ça encore plus rapidement. Mm-hmm. D'accord. On va avoir les mêmes ingrédients. Enfin, les mêmes ingrédients. Encore une fois, un kilo de figues qu'on va couper en quatre avant notre préparation. 500 grammes de sucre. Je mets 250 grammes. C'est aussi bon.
Aussi.
Ça suffit aussi. On rajoute un peu d'eau, 50 ml d'eau. On a besoin d'un peu d'eau ici avec le cookéo. On met ça en mode doré pendant 5 minutes. D'accord ?
Mode doré. D'accord.
Mode doré. Toi, tu ne connais pas le cookéo encore. Hein ?
Pas encore, mais ça
me Mais je te le conseille. Moi, je me suis fait ramener de France et c'est un vrai bonheur. Donc, on met ça en mode doré pendant 5 minutes. Okay, ensuite, en mode pression pendant 30 minutes.
D'accord.
Ok, notre confiture est prête. Alors,
donc,
peut-être,
on a économisé combien de temps, rappelle-moi ?
On a économisé un peu plus d'une heure.
Ah, une heure et demie, hein, presque. Waouh.
Mm-hmm. Alors, si elle est encore un peu trop liquide, c'est comme tous les plats au cookéo, on la remet à nouveau au mode doré, on la met à réduire un petit peu.
D'accord.
Ok, pareil, on vérifie aussi la consistance de la gelée pour ne pas que ça fasse de caramel. C'est aussi possible au cookéo.
D'accord.
D'accord ?
Magnifique. Bah, vous avez votre confiture de figues et pour les chanceuses qui ont le cookéo, voilà, vous avez aussi une nouvelle recette à préparer.
Voilà, on peut faire toutes les confitures au cookéo, hein, c'est très bien. Oui. Alors, on ne peut pas parler de kippour et pas parler de confiture de coin, bien sûr.
Mais oui, j'allais te dire, attends, c'est sympathique tout ça, les Algériens, ok, on vous a, on vous a mis à l'honneur dans cette émission, mais... ça manque de boulot et de confiture de coin.
Voilà, exactement. Alors,
D'accord. Parce que nous, pour nous, c'était à nos yeux, quoi. C'était une aussi grande mitzvah de casser le jeûne avec boulot citronnade et confiture de coin que de jeûner à Yom Kippour, quoi. C'était pas possible. D'accord.
Voilà. Ok.
Alors.
Donc, on va prendre à peu près l'équivalent de deux coins. D'accord, ça va faire à peu près 600 grammes de...
D'accord.
D'accord, maintenant si on a un kilo, alors on adaptera le sucre. Okay. Pour 600 grammes de coing, je mets aussi 600 grammes de...
De sucre.
De sucre,
c'est
d'accord.
C'est pas comme pour avec les figues qu'on peut réduire, hein. C'est pas assez sucré.
C'est pas assez sucré. Oui, c'est pas sucré le coin. Quand tu le goûtes cru, d'abord, bon, c'est pas très bon, mais c'est un peu âpre comme ça. Mm-hmm. Et c'est vrai que ça a besoin de plus de sucre. Donc, la même chose, le bâton de cannelle est indispensable pour la confiture de coin. Moi, c'est ce que je dis.
Vous n'y
échapperez pas. On peut mettre aussi des clous de girofle.
Une petite pincée de cannelle. Pourquoi un bâton ? Une petite pincée, ça marche pas ?
Je sais pas, j'aime bien le bâton de cannelle.
D'accord, tu aimes le bâton, d'accord.
On peut mettre une petite pincée. Ce qu'il y a, le bâton de cannelle, tu l'enlèves ensuite. Tu sais, donc tu tresses l'arôme, que la pincée, tu as peut-être la poudre, je ne sais pas.
Okay.
Clou de girofle. Alors, ce que tu peux faire, c'est prendre une gaze, mettre tes clous de girofle dedans, ta cannelle dedans. Comme ça, ce sera plus facile à retirer une fois que la cuisson.
Tu es la seule qui a des gazes dans ta cuisine, Muriel, parce que tu es infirmière, mais nous, on n'a pas
peut
de
être
gaz
ça.
Dans notre cuisine. D'accord.
Ok. Et un demi verre d'eau, un verre et demi d'eau, pardon, pour 600 grammes, ou à peu près 250 millilitres comme ça d'eau.
D'accord. Ça va être comme tout à l'heure qu'on va devoir rester collé à la casserole, planté dans
Bien
la casserole.
Bien sûr, mais avant ça, il y a une énorme difficulté à éplucher les coins. C'est très difficile à éplucher.
Très, très difficile.
Oui, tu l'as fait la confiture de coin
Je fais de la compote de coin. J'adore. Mmh.
Ah oui,
j'adore
la pâte
ça.
De coin aussi. Hein.
Ah, ouais,
ma grand-mère faisait de la pâte de coin.
C'est bon. Et c'est vrai que personnellement, j'en fais très rarement parce que j'ai d'énormes difficultés à couper le coin.
Alors, moi, j'ai découvert quelque chose il y a quelques années.
Ouais.
Je mets mes coins à bouillir comme des pommes de terre.
D'accord.
D'accord, une bonne dizaine de minutes. C'est pas encore bien cuit quand je les retire, mais ça s'épluche tout seul à l'économe.
Oh,
tu peux les couper, tu peux aussi enlever l'intérieur,
D'accord,
l'intérieur. À propos de gaz, on a mis donc nos clous de girofle et la cannelle. On va aussi mettre les pépins du coin qu'on vient de retirer, hein, l'espèce de trognon qui est à l'intérieur. Mmh. Pourquoi ? Parce que pendant la cuisson, ces pépins, ils vont lâcher en fait, il y a de la pectine, ça va gélifier notre confiture.
Ah, d'accord.
D'accord, parce que dans le coin tout seul comme ça, il n'a pas tendance à gélifier, ça va faire plutôt compote, comme
d'accord.
tu fais. Mais là, le fait de laisser les pépins donc, dans cette gaze, encore une fois, quand tu auras fini la confiture, tu retires la gaze.
Donc, de avec toute façon, les pépins, on ne les aura pas, d'accord.
Tu ne les auras pas, ce ne sera pas dans la confiture et puis ce ne sera pas éparpillé dans ta confiture. D'accord. Donc,
d'accord.
On va, une fois qu'on les aura épluchés donc facilement comme... comme j'ai expliqué, tu peux aussi les mettre au micro-ondes à Gab. Tu peux aussi les mettre au micro-ondes, oui.
Mais dans de l'eau, hein, pas tout seul comme ça, micro-ondes.
Quand tu mets une pomme au micro-ondes, en fait, la peau, elle ramollit aussi, je pense. Donc, je pense que ça peut être possible, hein, tu sais, de les mettre quand même dans le...
Bon, bah, essayez.
Vous essayez, voilà. J'essaierai moi aussi, d'accord.
Ok,
donc, on va les mettre dans une casserole, tous les ingrédients, d'accord. Et on va mettre à cuire... cette fois-ci à feu couvert, d'accord ?
D'accord.
Alors, c'est un peu plus rapide que les figues, parce que ça lâche un peu moins d'eau. Donc, mais il faut quand même surveiller. À un moment, ça va devenir un peu rouge.
Oui,
d'accord ?
C'est vrai,
la confiture, elle devient rouge.
Très étonnant.
Et moi, ça m'est arrivé souvent aussi d'arriver au caramel, justement, parce que
je
n'étais pas trop à côté. Oui, non, mais ça arrive à tout le monde, d'accord ?
D'accord.
Et voilà. Et quand c'est couvert, alors...
Donc, pour ne pas y arriver, c'est vraiment rester à côté et surveiller.
Oui, une confiture, il faut rester dans la cuisine. Quoi. On ne peut pas aller passer l'aspirateur. Et, je ne sais pas. Enfin, on a besoin quand même.
Aller vaquer à ses occupations.
Voilà. Alors, on va savoir qu'elle est prête quand les fruits seront rouges et quand le sirop aura gélifié. Il y a une espèce de gelée, d'accord ?
Et donc, on va faire pareil, là, ton histoire de bocal renversé.
Oui, toutes les confitures. D'accord.
C'est le mystère du bocal qui fait le poirier, hein, vraiment. Il faudra
Je pense qu'il y a une histoire d'air, je ne sais pas, l'air remonte. Je rechercherai pour la prochaine fois, d'accord. Et puis,
ça sera tes devoirs.
Je l'ai toujours fait, mais je ne sais pas pourquoi.
D'accord.
J'aime bien retourner fermer mon bocal, le retourner sur le...
Bah, tu connais l'histoire de cette jeune femme qui prépare un roulé et puis qui coupe les deux bouts du roulé. Alors son mari lui dit mais pourquoi tu coupes les deux extrémités du roulé? Elle dit parce que ma mère a toujours fait comme ça, c'est comme ça qu'on fait. Il dit mais pas du tout, c'est dommage, tu coupes. Elle dit mais non, moi je te dis que ma mère a toujours fait comme ça. Il dit mais demande pourquoi elle a fait comme ça. Alors elle appelle sa mère, elle dit maman, mais pourquoi tu coupais les deux extrémités du roulé? Elle a dit parce que ça rentrait pas dans mon moule. Tout simplement.
D'accord.
Voilà. D'accord.
Donc il y a toujours une bonne raison.
Il y a toujours une raison. Bon,
on continue à faire.
Elle n'est pas forcément bonne, mais il y en a toujours une. Très bien.
D'accord, voilà. Et on a notre confiture de coin, donc, qui est prête pour...
On va se régaler.
Pour le soir de Kippour.
Si tu me permets, j'ai donné une petite recette de citronnade pour accompagner tout ça.
Mais oui, oh là là, oui.
Et oui, vous allez vous munir de deux citrons bien juteux. Vous allez vous munir de 9 cuillères à soupe de sucre. Mm-hmm. Oui, tout à fait, c'est ça. 9 cuillères à soupe de sucre et un sucre vanille. Vous allez mélanger tout ça jusqu'à ce que le sucre en fait soit dissous. Si vous voyez qu'il est un petit peu comme ça têtu et qu'il ne veut pas dissoudre, vous rajoutez un petit peu d'eau bouillante. Vous remuez bien et voilà, vous avez votre concentré de citronnette qui est prêt. Après, vous n'avez plus qu'à ajouter de l'eau bien fraîche. Ah, voilà, en fait, le secret, c'est ce petit sachet de sucre vanillé. C'est ça qui donne le bon goût de la citronnade.
C'est la vraie citronnade tunisienne.
La vraie citronnade tunisienne qu'on va pouvoir déguster avec notre confiture de coin. Bon, on n'a pas donné la recette du boulou. Hein. On pense que on pense que vous l'avez déjà. En tout cas, ne bougez pas parce qu'on va retrouver tout de suite le Rav Usan qui nous attend en ligne. Rav Usan, shalom ouvracha.
Alors bonjour mesdames, bonjour chères auditrices. Quelle émotion! Imaginons ce soir déjà, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, nous allons basculer dans une nouvelle année, l'année 5781. Ce soir, Rosh Hashanah, c'est une opportunité extraordinaire. De même que à Rosh Hashanah, Adam Harishon a été créé et il a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux sur un monde nouveau. Lui-même avait un corps nouveau, une nouvelle Neshama. Et il a ouvert les yeux sur un monde qui venait d'être créé il y a 5 jours. Nous étions le 6e jour de la création. Tout était neuf, tout était nouveau. Eh bien, nos Hachamim nous affirment qu'à Rosh Hashanah, quelqu'un peut mériter, s'il y croit fortement, s'il est persuadé à ça, s'il s'est préparé aussi, peut mériter de recevoir une nouvelle Neshama. Pas une autre Neshama, mais une nouvelle, cette même Neshama. Cette même Neshama qu'Hachem, tout au long de l'année, nettoie. Tous les soirs, il nous la prend, il nous la nettoie. Tous les Shabbats, il nous la nettoie avec au savon. Et les jours de fête, il la nettoie avec une bonne brosse. Mais à Rosh Hashanah, il nous fait un échange et il nous donne une Neshama toute neuve. Nous avons l'occasion, c'est pourquoi ce soir, quand nous allons manger tous les aliments qu'on a l'habitude de manger, qui portent en eux des bons signes d'une année nouvelle et douce, d'une année remplie de mérites, d'une année où tous nos ennemis, aussi bien physiques que spirituels, tous nos ennemis s'écartent de nous. Une année où tous les mauvais décrets qui auraient pu être pris soient annulés complètement. Une année où nos mérites seront appelés et seront sur le devant de la scène devant Hachem Yitbarach. Une année où nous serons à la tête et nous ne serons pas à la queue. C'est une soirée extraordinaire. C'est pourquoi lorsque, mesdames, votre famille va consommer ce que vous aurez préparé, alors dites bien aux enfants, dites bien à toute la famille, c'est pas simplement un symbole pur et simple. C'est une tfila, une prière profonde. C'est pourquoi il faut être très joyeux et prier le Yiratzon que nous faisons avec beaucoup de sincérité. Et surtout, qu'aucune tension, aucune colère ne soit dans notre maison pendant ces 2 jours de Rosh Hashanah. Et surtout, le premier soir de Rosh Hashanah à la maison. Je nous souhaite que nous passions un bon Rosh Hashanah, et qu'Hachem, effectivement, nous accorde à chacun de nous une belle Neshama, toute propre et toute neuve, Bezat Hashem. Shana Tova!
Merci beaucoup, Rav Usan, Shabbat Shalom, Shana Tova. Et puis évidemment Tzom Kal hein, pour la semaine prochaine. J'ai juste oublié une petite précision hein, les ingrédients que on vous a donné juste auparavant pour la citronnade, et eh bien ça vous sert pour 1,5 litre. Voilà, 1,5 litre de bonne citronnade bien fraîche, ça fait toujours du bien la fin de Yom Kippour.
Oui, bien sûr.
Muriel, que te souhaiter en vue de cette nouvelle année?
Eh bien, Gmar Hatima Tova.
Gmar Hatima Tova.
D'accord, qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie.
Amen, amen, et de la bonne santé surtout.
Amen,
hein.
Et beaucoup de nachat dans la vie.
Voilà, on souhaite... On souhaite un bon débarras virus, si Dieu veut.
Oui, oh là là, ça y est, on en a soupé là.
Hein. Hein, ça y est.
C'est bon.
Qu'il s'en aille aussi vite qu'il soit venu. On vous souhaite une année pleine de brachot,
pleine de saveurs,
mm-hmm. Une année de shalom, de paix, de bénédiction, de bonne santé, de prospérité spirituelle Amen. Et matérielle pour vous et tous les vôtres. On a été très heureux de passer toute cette année avec vous pour ces émissions de la Boxe à Gourmandise. On se retrouve Bezrat Hachem et bien l'année prochaine, hein, ce qui est voilà. dans une semaine. Et entre-temps, on vous souhaite d'excellentes fêtes. À très bientôt.
Voilà.
Hareni eved, eved l'Hashem, l'Hashem itbarach. Hareni eved, hareni eved, eved l'Hashem, l'Hashem itbarach. Hareni eved.